France Culture.
Les Midi de Culture continuent à 13h. Je recevrai Dominique Cabrera. Son documentaire, Le cinquième plan de La Jetée, évoque bien sûr le film culte de Chris Marker, La Jetée, mais aussi sa propre histoire familiale. Ce sera au cinéma mercredi prochain. Mais avant, place au point culture. Bonjour Sophie-Catherine Gallet.
Bonjour Marie, bonjour à toutes et bonjour à tous. En ce jour d'Halloween, et alors que le cinéma d'horreur se porte particulièrement bien ces dernières années, un retour sur les raisons de ce succès et sur les spécificités du cinéma d'horreur contemporain, c'est notre dossier du point culture du jour. Jean-Baptiste Carobolante, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique d'art et vous avez écrit plusieurs livres sur le cinéma d'horreur. Votre thèse portait notamment sur le cinéma de spectre. Alors le film d'horreur semble se porter de mieux en mieux ces dernières années. Est-ce que c'est par exemple grâce à l'arrivée de cinéastes qui hybrident en fait le genre avec une réflexion politique ou sociale? Évidemment, je pense à Get Out de Jordan Peele.
Oui, complètement. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une dizaine d'années, il y a une nouvelle maison de production, A24, qui s'est un peu spécialisé au début dans le cinéma d'horreur avec justement Get Out. Il y a eu aussi It Follows un peu de temps avant, il y a eu Hérédité juste après. Et ce sont des films effectivement donc américains, des films d'horreur américains, mais qui sont plus peut-être on pourrait dire psychologisants, un peu comme Get Out justement, plus politiques aussi, parfois plus expérimentaux, même si bon ça reste du cinéma grand public, mais qui ont donné un aspect effectivement peut-être... un peu plus une dimension d'auteur au cinéma d'horreur et qui fait qu'il a retrouvé un peu ses nettes de noblesse et avec des réalisateurs qui ne sont pas forcément uniquement des réalisateurs de films d'horreur. Jordan Peele, à la base, est un comédien, justement, il faisait des comédies. Et qui ont fait que le cinéma d'horreur est redevenu quelque chose de, on va dire, de, que l'on peut considérer de manière positive et non plus uniquement un genre mineur.
Alors, il y a toujours eu un besoin de catharsis par la peur, ça pour tenir à l'écart le monstre, ce qui est étranger. On pourrait juste penser aux contes, qui en soi sont presque toujours relativement effrayants. Alors, il y a encore évidemment d'autres terrains que le cinéma pour construire la peur, mais dans quelle mesure, selon vous, la fiction cinématographique remplit peut-être encore mieux cet objectif de catharsis?
Eh bien, je pense que le cinéma est un art de masse. Et donc, de ce fait, le cinéma est assez propice pour donner une catharsis, pour conjurer les peurs sociétales. Et parce que c'est aussi un art dont on profite en groupe, même si bon, maintenant avec les plateformes, on peut le faire de manière individuelle, mais le cinéma va toujours parler de la société. Et donc, il est assez propice, effectivement, pour parler des grandes peurs que traverse la société. Et d'ailleurs, le cinéma d'horreur souvent change lorsque la société change.
Oui, justement, enfin, il y a donc des vagues de typologies, de thématiques dans le cinéma d'horreur. Il y a donc le monstre, le zombie, le psychopathe, les mutations corporelles, le gore, et j'en oublie évidemment. Est-ce que, dans la lignée de ce que vous étiez en train de dire, on peut reconstituer une histoire des peurs des sociétés par les thèmes choisis par le cinéma d'horreur, ou c'est aller un peu trop loin?
Non, je pense qu'on peut. Bien sûr, il y a des choses que le cinéma ne peut pas, et il faudra aller vers d'autres médiums, mais il suffit de regarder le cinéma des dernières années avec tout un tas de nouveaux genres qui sont nés, comme le found footage. Le found footage, par exemple, c'est Blair Witch, c'est Paranormal Activity, c'est des films où la caméra que porte un personnage dans le film devient la caméra du film, et qui se présente comme des fausses archives. Et c'est un type de cinéma qui est tout trouvé pour une société qui rentre dans l'ère des écrans, et qui a besoin de donner une dimension peut-être plus intime à l'horreur, vu que l'image n'est plus justement quelque chose qui est lié au groupe, mais qui va devenir plus intime. Et donc ça, forcément, le found footage répond à une horreur que l'on rencontre, qui est la peur que nous avons des images, et particulièrement des images que l'on porte sur nous, des écrans, et de YouTube, et de ce type de représentation.
Et quel serait l'âge d'or du cinéma d'horreur, si on devait en pointer un en particulier?
Il y en a plusieurs, je pense. Oui. Il y aurait déjà, je pense, le cinéma expressionniste allemand, dans les années 30, avec Nosferatu, par exemple, avec le cabinet du docteur Caligari, qui est vraiment un premier âge d'or, et puis après, il y a eu la Hammer, mais certainement, il y a eu les années 70, qui ont codifié tout ce qu'est le cinéma d'horreur toujours aujourd'hui, avec le cinéma de zombies, le cinéma de possession, avec le cinéma des tueurs masqués. Tout ça arrive dans les années 70, qui est lié à un type de société dans laquelle nous sommes toujours aujourd'hui, qui est la société télévisuelle, une société avec un capitalisme tel qu'on le connaît toujours aujourd'hui. Et après, on sent qu'il y a un changement depuis quelques années, où on sent qu'on est en train de changer d'air, et c'est ça qui est intéressant, pour ça qu'il y a un retour d'intérêt pour le cinéma d'horreur. Peut-être qu'on est à un âge d'or, je ne sais pas.
Ça, on le saura peut-être dans quelques années. On pourra voir avec. Et donc, il faut rappeler aussi une grande majorité des films dont on parle, c'est des films qui sont produits aux États-Unis, et c'est vraiment un genre qui a ses racines historiques là-bas. Évidemment, il y a d'autres pays qui se sont emparés de ce genre, mais ça reste quand même très états-unien, il me semble. Alors, pourquoi ça s'est particulièrement développé dans ce pays, selon vous?
Ben, je pense parce qu'il y avait les structures de production qui étaient là-bas. Le cinéma est un art américain, quand même. Et puis, dans les années 70, le genre s'est vraiment structuré là-bas. Avant, il y avait quand même un cinéma qui pouvait être justement allemand. Il y a quand même un cinéma d'horreur qui est très japonais hein, dans les années 90. Mais dans les années 70, c'est là où tous les tropes du genre se sont faits aux États-Unis. Et c'est quand même toujours les États-Unis qui ont les plus grosses boîtes de production. Même si un cinéma d'horreur, encore une fois, asiatique est très important. Il y a un cinéma d'horreur européen aussi. Mais c'est quand même l'Amérique qui dicte la norme. Aujourd'hui, les plateformes sont américaines et les séries d'horreur sont américaines. Enfin, vraiment, c'est pour des questions économiques, je pense.
Ouais. Alors justement, à propos de séries, ça fait plusieurs années qu'il y a une forme de mutation, de déplacement de l'horreur vers des documentaires sur des figures réelles, comme celle de Serial Killer, relatant les meurtres, les sévices, donc vers de l'horreur qui est plus du tout de l'ordre de la fiction. Mais en miroir, il y a aussi quelque chose d'autre qui semble se dégager. Alors c'est peut-être plutôt une forme de prolongation, avec une mise en fiction de faits divers réels, comme par exemple la série d'anthologie Monstres. Qu'est-ce que ça raconte pour vous, ce glissement du réel vers la mise en récit documentaire, puis du réel vers la fiction?
Mais j'ai l'impression que ça a toujours existé également. Mais c'est vrai qu'on a un désir qui est assez positif, tout comme négatif. On a un désir de rendre réel la fiction à notre époque, comme si le réel en fait manquait d'intensité, qu'il fallait qu'on le réintensifie et que la fiction ne suffisait pas. Et il y a un autre aspect aussi, c'est que je pense que les fictions horrifiques déclinées en série fonctionnent pas, parce que l'horreur a besoin d'une intensité réduite. Ce sont souvent des films qui sont assez courts. Mais lorsque c'est en documentaire, il y a quelque chose de différent qui se passe, où on peut le réel fournit des choses que la fiction ne serait pas capable d'inventer. Et peut-être que une série horrifique fonctionne mieux lorsqu'elle est documentaire plutôt que lorsqu'elle est fictionnelle, pour des questions de tension et de structure même du récit.
Et si on devait résumer un peu l'état de l'horreur aujourd'hui, quelles seraient pour vous ces typologies principales? De quoi on a collectivement peur aujourd'hui pour vous?
Alors, il y a deux choses. Il y a déjà le fait que l'horreur, depuis quelques années, que ça soit avec des films comme ceux de Damian Ruga, qui est un réalisateur argentin, ou Vicious de Christian Tavdrot, qui est sorti cette année, une horreur qui est où le mal est inéductable. C'est vraiment des horreurs où il y a plus de monstres. Ce n'est plus un monstre, un démon, un zombie que l'on peut combattre, mais c'est vraiment juste une puissance destructrice. Et ça dit quelque chose de notre monde, où il y a une espèce de désespoir. On ne peut rien faire face aux horreurs du monde, et donc du coup le cinéma d'horreur va nous présenter des puissances contre lesquelles on ne peut rien faire, qui sont tautologiques, qui sont omniscientes. Enfin, c'est vraiment assez dramatique. Et je vois aussi un autre aspect qui cette fois-ci est peut-être en négatif, c'est que l'horreur a toujours du mal, le cinéma d'horreur a toujours du mal à représenter l'horreur écologique. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué. Déjà, le Covid est inexistant au cinéma d'horreur, peut-être parce que les cinémas de maisons hantées, de zombies disaient déjà quelque chose de la pandémie. Mais le cataclysme écologique peut-être est trop sociétal et pas assez individualisé pour que le cinéma puisse le représenter. Et il y a peut-être un film comme La Nuée de Juste Philippot, qui est un film d'horreur français de 2020, qui essaye de dire quelque chose d'un néant écologique qui se retrouverait avoir un impact humain. Mais pour moi, c'est un peu deux choses qui marquent le cinéma d'horreur actuellement, par sa présence ou par son absence. Et c'est des choses qui marquent les années 2020.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Carobolante.
Avec plaisir.
Suite de l'actualité culturelle, Sophie Catherine, on a appris la mort de Mimmo Iodice.
Le célèbre photographe italien, reconnaissable à ses photographies épurées en noir et blanc, s'est éteint cette semaine à l'âge de 91 ans. Mimmo Iodice s'est d'abord fait connaître à travers ses portraits d'habitants de Naples, puis grâce à ses photos de ruines archéologiques et de statues antiques.
Service public à présent, une centaine de comédiens alertent sur les menaces qui planent autour de la création audiovisuelle en France.
Alors que le projet de loi de finances pour 2026 risque d'amputer le budget de France Télévisions à hauteur de 65 millions d'euros, 110 comédiens et comédiennes viennent de signer une tribune dans le journal Le Parisien. Ils y rappellent l'importance du service public qui véhicule à travers la fiction, je cite, « les valeurs de diversité, de démocratie et de lien social ». Une coupe de cette ampleur reviendrait pour France Télévisions à ne plus pouvoir produire l'an prochain l'équivalent de 85 épisodes de 52 minutes.
Et pour finir, l'Académie française a décerné hier son grand prix.
Et c'est l'autrice haïtienne Yannick Lahens qui a été distinguée pour son ouvrage Passagère de nuit, Paris aux éditions Sabine Vespizer. Dans ce roman, je cite l'éditeur, Yannick Lahens rend un hommage d'espoir et de résistance à la lignée des femmes dont elle est issue. S'ouvre avec ce prix la saison des récompenses littéraires. Le Femina sera décerné lundi, le Goncourt et le Renaudot mardi. Et enfin, le Médicis sera remis mercredi.
Merci beaucoup Sophie Catherine et bon week-end. Il est 13h et vous écoutez les Midi de Culture.